Je voudrais saluer tous fraternellement et souhaiter la bienvenue à tous dans le nom précieux de notre Seigneur et souhaite, je vous souhaite les riches bénédictions de Dieu. Je crois que Dieu aujourd'hui, d'une manière particulière, nous bénira. Nous avons mis notre confiance pas sur nous, mais sur le Seigneur, sur lui. Et il est écrit, tout celui qui met sa confiance en lui ne sera pas confus. Dans cette certitude, de la foi, nous commençons aujourd'hui ce culte. Pour nous, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une habitude, mais c'est un privilège de nous réunir dans la présence de Dieu et d'écouter sa parole, la recevoir, ce qu'il a à nous dire et de tout notre cœur être prêt à mettre ces choses en pratique. Beaucoup ont déjà écouté la parole de Dieu et l'écoutent tous les dimanches nouvellement. Mais très peu sont prêts réellement à la mettre en pratique. Sont prêts de tout leur cœur, sincèrement, à croire tout ce que le Seigneur a dit. Et pour ceux qui, peut-être aujourd'hui, sont ici pour la première fois, nous voulons le dire en insistant que l'objectif et le sens de ces réunions et de ces cultes, c'est simplement, consiste simplement à ce que nous puissions, devant la face de Dieu, nous rassembler pour écouter sa parole et qu'elle nous soit révélée par le Saint-Esprit. Écouter la parole de Dieu qui est révélée par le Saint-Esprit. Et par cela, expérimenter personnellement Dieu pour que sa parole puisse être confirmée en nous. Nous voulons cet après-midi, dans cette assurance et dans cette certitude de la foi, nous voulons commencer. Et aujourd'hui, nous le faisons avec une prière commune. Et nous allons remettre à Dieu dans la prière et consacrer cette réunion à Dieu dans la prière. Je vous demande de conserver ça devant vos yeux, devant vous, que tout ce que nous voulons demander à Dieu, nous les avons déjà reçus de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne venons pas à Dieu en tant que des mendiants, en tant que des hommes qui font l'aumône et frappent à sa porte, mais en tant que des fils et des filles de Dieu, des héritiers, des gens de sa maison qui lui appartiennent, en tant que le troupeau racheté par le sang. Et dans cette certitude de la foi, cette assurance, nous voulons aujourd'hui, avec la prière, commencer ce culte. Jamais. Auparavant, il y a eu tant de requêtes exprimées avant une réunion.
Erwähnt worden wie heute Nachmittag.
comme cet après-midi. Et je sais que tout un nombre de frères et de sœurs, plusieurs frères et sœurs, cet après-midi sont ici qui ont sur leur cœur un problème bien spécial. Et nous voulons porter tout cela ensemble. Vos difficultés sont nos difficultés. Votre joie est notre joie. Vos douleurs sont nos douleurs. Nous avons tout ensemble. Nous voulons ainsi les uns pour les autres et avec les autres ressentir, comme il est écrit, d'avoir de la compassion comme les membres d'un même corps. Si un membre souffre, alors tout le corps souffre. Et cette relation profonde, intime, sincère, que Dieu parmi les siens a produit, nous fait ressentir quelque chose les uns pour les autres. Et nous ne voulons pas aujourd'hui seulement lui apporter nos propres requêtes, mais aussi lui apporter les douleurs, les requêtes, les difficultés, les problèmes des autres. Ensemble, nous voulons le faire et les apporter devant la face de notre Seigneur. Et cela dans toute l'assurance et dans la foi. Nous voulons, pour le faire, nous lever. Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, toi seul, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui a parlé à tous les prophètes et jusqu'aujourd'hui, tu as conservé ta parole et tu nous l'as révélée. Tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle. C'est à toi que nous venons avec tout ce qui nous concerne nous-mêmes et nous occupe et occupe les autres et nous rend la vie difficile. Nous venons à toi et te demandons, secours-nous aujourd'hui, cet après-midi. Seigneur, que cette réunion, ce culte soit comme les réunions que toi-même tu as tenues alors que tu marchais sur cette terre. Seigneur, que tous dans la foi viennent à toi dans la foi, invoquent ton nom et reçoivent ton secours, revendiquent ton secours, que personne soit parmi nous qui laisserait passer ta parole à lui. Seigneur, nous plaçons cette réunion consciemment sous la puissance qui purifie du sang de l'agneau et sous la conduite de ton Saint-Esprit. Que tu puisses, Seigneur, prends tout le contrôle sur nous et accorde ta grâce pour parler et ta grâce pour écouter. Que ce ne soit pas seulement ceux qui sont ici rassemblés aujourd'hui, mais que tous ceux qui écouteront cette prédication quelque part Seigneur, que tu puisses aussi les bénir et être avec eux. Que eux aussi, ils puissent expérimenter ton secours et ta présence. Glorifie ton saint nom et confirme ta parole par des signes et des prodiges et des miracles. Adoration et honneur te soit apporté à toi et à ton saint nom. Amen.
Tu bist würdig, tu bist würdig.
Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur. Louange et adoration. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur. Nous levons les mains et chantons encore ce chœur. Amen. Nous nous asseyons. Nous voulons chanter encore ce cantique
544.
Quand le jour éternel apparaîtra et que le temps n'existera plus. Pensons à cette importance et mettons en pratique avec sérieux la parole de Dieu, que nous puissions supplier sincèrement et dire: reviens, je suis prêt. Quand le Seigneur reviendra appellera les saints, je répondrai. Quand le Seigneur appellera les siens, quand le Seigneur appellera les siens, quand le Seigneur appellera les siens, par la grâce de mon Sauveur, je répondrai. Loué et remercié soit le Seigneur de ce que nous avons cette certitude de la foi que nous portons dans nos cœurs. Et nous pouvons dire: par la grâce de mon Sauveur, je serai là-bas. Cela m'intéresserait presque de savoir combien de vous ont cette assurance dans leur cœur d'avoir expérimenté le pardon de leurs péchés et qui ont la certitude d'appartenir au Seigneur et d'avoir reçu la vie éternelle. Dites simplement Amen. Amen. Et tous, tous ceux qui peut-être ne peuvent pas encore le dire, amis, que Dieu puisse utiliser cette réunion pour vous parler. Et si Dieu nous parle, il ne s'adresse pas à nos têtes, pas pour que nous ayons une raison de nous entretenir ou bien alors un sujet pour parler, mais Dieu s'adresse à notre cœur. C'est dans le cœur, et dans le cœur on ne discute pas. Dans le cœur, on croit ce que Dieu a dit. Ça, c'est la différence entre ceux qui, n'est-ce pas, veulent saisir Dieu, comprendre Dieu avec leur intellect, et entre ceux qui de tout leur cœur peuvent croire. Heureux ceux qui peuvent croire ce que Dieu dans sa parole a dit. Le jour d'aujourd'hui est pour moi, et je voudrais dire, et j'espère aussi pour nous tous, est un jour de fête, un jour particulier, car moi et beaucoup de vous, vous vous rappelez, nous nous rappelons avec reconnaissance aux premières réunions que nous avions eues il y a beaucoup d'années passées dans cette salle ici en Suisse. C'était le commencement, oui, le commencement, le point de départ d'une propagation mondiale du message divin de sa parole révélée dans ce temps. Un point de départ. Et nous savons que Dieu nous a accordé sa grâce de reconnaître le ministère qu'il a déterminé pour cette époque. Et je voudrais que tous vraiment comprennent que il ne s'agit pas d'une manière particulière honorer, élever l'un des serviteurs de Dieu, que ce soit Moïse ou bien alors Abraham, un Ésaïe ou un Élie, de nouveau un Paul ou alors un Pierre, Paul ou Pierre ou Moïse ou Abraham, et je peux aussi mentionner notre bien-aimé frère Branham et le placer dans cette liste, dans la catégorie de ceux qui ont marché sur cette terre avec un ministère direct, un mandat direct divin et au nom du Seigneur à parler et ce qu'ils ce que ces hommes de Dieu ont dit s'est accompli et a été confirmé et légitimé par Dieu. Alors, si nous mentionnons ces noms, les noms de ceux par qui Dieu, dans notre temps, a parlé, parfois, si nous le faisons aussi, dans notre temps, alors ce n'est pas pour élever, frère Branham, mais seulement parce que à cause de nos cœurs reconnaissants. Reconnaissants de reconnaître ce que Dieu, dans notre temps, a fait. Nous ne suivons pas d'hommes, mais nous suivons le Seigneur. Le Seigneur qui nous a rachetés et qui a matin et soir envoyer ses serviteurs, les prophètes, pour parler à la conscience de son peuple et les ramener sur le chemin de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un jour en mémoire. Et à ce point de départ, je répète encore une fois, je regarde avec reconnaissance à ces années passées. Les années les plus fécondes du lancement étaient de 68 jusqu'à 78, pendant ces 10 ans où nous avons eu le programme de radio par la radio du Luxembourg, et comme pour dire ainsi, nous avons pu atteindre les régions qui parlent allemand, pas seulement l'Europe de l'Ouest, mais l'Europe de l'Est. Nous avons pu servir ces régions. Et le frère Schmidt est assis ici aujourd'hui de Krefeld. Il connaît le frère qui nous disait, je crois que c'était le frère Jans, qui nous disait que là-bas, à Kazakhstan, ils ont enregistré les prédications sur des bandes magnétiques qui ont été tenues dans la radio Luxembourg, à la radio Luxembourg, et que par cela, elles ont été beaucoup jouées et fait écouter. L'ensemencement a eu lieu et la récolte aussi aura lieu. La moisson, ne vous inquiétez pas, la récolte la moisson n'a pas encore été récoltée. Nous nous tenons presque, nous sommes plus loin de la récolte, de recevoir l'ordre de Dieu de commencer la récolte de la moisson. Et je voudrais, à vous qui êtes ici aujourd'hui, et à tous ceux qui ne peuvent pas être ici et qui ont remis leurs salutations et leurs vœux de bénédiction. Et pas pour oublier le frère Rousse et l'église de Krefeld et beaucoup d'autres m'ont exprimé des souhaits de bénédiction et des salutations à tous ceux qui seront ici aujourd'hui. Beaucoup pensent à nous dans ces heures pendant cette réunion. Nous voulons, quand tout à l'heure ils écouteront la bande magnétique, la bande, qu'ils puissent aussi savoir que nous avons pensé à eux d'une manière plein d'amour, de liaison dans le cœur et de reconnaissance concernant les choses que Dieu a fait. Je pourrais aujourd'hui vous donner un exposé de ce qui s'est passé durant toutes ces années. Vous savez que j'avais eu la grâce d'être personnellement dans 72 pays de la terre, 72 pays, et ainsi là-bas prêcher et porter la sainte et précieuse parole de Dieu. Et si aujourd'hui, en cet endroit, je dis que je n'ai pas fait attention à moi en aucune manière, mais par un travail de traduction, par les émissions de radio, par les correspondances, par tous ces voyages que j'avais, j'étais entièrement pris dans les choses, dans l'œuvre de Dieu. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour cela, de ce que moi, misérable, sans valeur, homme inutile, c'est justement moi qui l'a trouvé, qu'il a choisi de prendre pour porter sa parole immuable, éternel, infaillible, de la porter dans le monde entier. À vous qui avez rendu cela possible, que cette œuvre de Dieu, je le dis avec esprit, œuvre de Dieu. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une direction de foi que Dieu aurait appelé à l'existence, mais nous nous approchons de la fin du temps, de la grâce, l'achèvement, la perfection de l'Église du Nouveau Testament qui s'entache sans ride apparaîtra devant le Seigneur. Et pour cela, un bain dans la parole était nécessaire. Et ainsi Dieu nous a accordé un bain dans sa parole par sa grâce pour laver tout et nettoyer tout ce qui n'est pas en accord avec sa parole. Nous allons courtement encore entrer dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. Je ne veux pas oublier particulièrement de remettre des salutations d'une docteur Guggenbühl. Le frère Guggenbühl était l'homme qui autrefois avait préparé les réunions pour frère Branham, que ce soit en Suisse, mais aussi en Allemagne. C'est lui qui a arrangé tout. Il était cet homme qui avait donné sa tête dans le temps pour faire tout ce qui est possible. Pour que cela soit possible, nous voulons particulièrement penser à lui. Si maintenant il lit les prédications de frère Branham, que Dieu, d'une manière spéciale, lui parle, pour que ce ne soit pas seulement qu'il les lise, mais qu'il puisse aussi les comprendre, comprendre ce qu'il lit. Car l'Éthiopien lisait du prophète Ésaïe. Il lisait. Et un homme de Dieu appelé Philippe lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Et il a dit, mais comment puis-je comprendre si personne ne m'explique? C'est ainsi que l'homme de Dieu a ouvert la bouche et a lié à cette parole qu'il était en train de lire et a lié à cette parole, il lui a prêché l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais bien aimé, ça s'est passé aussi dans notre temps. Dieu a envoyé un ministère prophétique. Il y a une partie évangélique, il y a une partie de l'enseignement et il y a une partie de l'histoire, du temps de l'histoire dans l'Église du Nouveau Testament. Et nous vivons maintenant à la fin de cet âge prophétique, dans les jours dans lesquels des prophéties bibliques s'accomplissent aussi aujourd'hui. Je voudrais lire quelques Écritures et avec l'aide de Dieu dire certaines choses là-dessus. Lévitique chapitre 23, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonna à Moïse la chose suivante en allemand. Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour de la réconciliation en allemand, des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Une sainte convocation dans le sanctuaire en allemand. Dans le sanctuaire en allemand. Aujourd'hui, nous avons aussi un jour particulier. Appelons-le une sainte convocation avec Dieu. Le peuple d'Israël devait, n'est-ce pas, ce jour d'expiation, ce jour de réconciliation, il devait le considérer comme un jour de fête, une sainte convocation. Sans l'expiation par Jésus-Christ, sans la réconciliation par Jésus-Christ notre Seigneur, aujourd'hui, nous ne serions même pas ici et il n'y aurait même pas d'évangile. Il n'y aurait pas eu de pardon, il n'y aurait pas eu de grâce et de vie éternelle sans l'expiation. L'expiation, la réconciliation par la croix et le crucifié, nous plaçons cette œuvre consciemment au centre de notre prédication. Celui qui, par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accepté l'expiation, la réconciliation, il peut avec nous aujourd'hui prendre part à cette fête avec Dieu, à cette sainte convocation. Et cette sainte convocation qui est une fête se concentre sur Golgotha. Car sans Golgotha, tout n'aurait pas été possible. Une fête, une sainte convocation. Le jour de l'expiation, de la réconciliation, était une sainte convocation, était une fête, un jour, une fête solennelle. Alors que Christ mourut à Golgotha, il y avait eu, c'était lié à la honte autour de lui, mais autour de sa personne. Mais toutes nos fautes, notre condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais bien aimé, ça nous voulons jamais l'oublier, ce que Dieu a fait pour nous. Alors nous lisons dans le psaume 33. À partir du verset 4, psaume 33, verset 4, « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il l'a dit et la chose arrive. Il ordonne, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour lui appartenir pour son héritage. Déjà dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu, par le Saint-Esprit, ont parlé de ce que Dieu ferait et ont écrit là-dessus. Ils étaient inspirés. Ils ont, devant leurs yeux, eu le plan du salut et le dessein du salut. Ils ont pu l'annoncer à l'avance. Heureux le peuple, le verset 12, dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple, car l'Éternel, comme Dieu, et comme dans le temps d'Élie, nous pouvons dire que le Seigneur est Dieu, le Seigneur seul et personne d'autre. Dieu s'est révélé par sa grâce à nous. Et hier, déjà, j'ai mentionné cette pensée que nous ne vivons pas dans les jours de la connaissance, mais dans les jours, dans le temps de la révélation divine de sa parole et de sa volonté. Des jours de la Réformation, Dieu a, n'est-ce pas, depuis les jours de la Réformation, il a, n'est-ce pas, accordé les vérités bibliques. Oui, ses connaissances sur ces choses et nous sommes reconnaissants pour cela et nous nous réjouissons avec tous ceux qui, dans leur âge, avaient la grâce d'écouter, d'entendre ce qui leur avait été prêché. Il est écrit dans Matthieu 13 que le Seigneur s'est adressé à la foule en parabole et qu'ensuite il s'est tourné vers ses disciples. Il les a pris de côté et il s'est adressé à eux. C'est à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. La foule écoutait des paraboles. Et ça aussi, c'était des paroles du Seigneur. Le Seigneur, n'est-ce pas, avait exprimé ces paraboles. Mais dans ces paraboles-là, la chose elle-même était enveloppée et cachée. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes interprètent encore les paraboles. Mais le Seigneur nous a ouvert les yeux pour les paraboles. Et que ce n'est plus nécessaire et que de comprendre que ce n'est pas, il ne s'agit pas d'interpréter ce qui est écrit, mais il s'agit de la révélation de la parabole, pas de son interprétation. Il s'agit de la révélation de la parole de Dieu et de la révélation de Jésus-Christ. Celui qui déjà une fois a déjà lu le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, saura qu'il commence avec cette parole, révélation. Le seul verset dans toute la Bible, dans ses 66 livres, commence avec ces paroles marquantes, révélation. Tous les autres versets qui existent dans tous ces chapitres, qu'on ne peut compter dans tous ces livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, tous ces versets bibliques, ont au commencement un autre mot. Mais le dernier livre, le premier chapitre dans le premier livre, dans le dernier livre, le premier chapitre dans le dernier livre, commence avec ce mot, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Nous vivons dans un temps de la révélation de sa parole et de sa volonté. Et nous avons assez souvent entendu dans les prédications de Frère Branham et lu que tout dans le royaume de Dieu est fondé sur la révélation. Jésus-Christ lui-même est la révélation de Dieu dans la chair, en chair. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété. Dieu est manifesté, révélé en chair, manifesté, justifié en esprit. Ça commence avec la révélation de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, et ça se termine avec la révélation, la manifestation divine de Jésus-Christ notre Seigneur. Si en tant qu'enfants de Dieu, nous reconnaissons cela et que nous nous tenons sur le sol de la révélation divine, alors nous aussi, nous allons pas seulement être des spectateurs, mais nous seront participants de ce que Dieu a promis et de ce qu'il fait maintenant. Mais bien aimé, Dieu a envoyé un message en tant que dernier appel, en tant que la dernière parole de Dieu pour révéler les derniers mystères du plan, du dessein, du salut de notre Dieu. Et tous ceux à qui Dieu en Christ s'est révélé, ils reconnaîtront et écouteront et dans leur cœur croiront ces mystères et Dieu se révélera à eux comme une révélation vivante par le Saint-Esprit. Il vivifiera pour eux ces révélations-là, ces mystères par le Saint-Esprit. Ça, c'est le sommet de tout. Je le répète, Dieu envoie sa parole, pas pour que nous ayons des sujets de discussion. Il n'envoie pas sa parole pour que nous puissions, l'interpréter. Pas pour que nous puissions l'interpréter, mais il nous envoie sa parole pour nous guérir. Il nous envoie sa parole pour nous montrer de quelle manière nous vivons et dans quel temps nous vivons, pour nous montrer dans quel temps nous vivons. Parlons de ce que Paul a à dire sur la révélation. Il l'a souvent assez utilisé cette parole. Je voudrais maintenant seulement lire dans Galates le chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, Galates chapitre 1, verset 11, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous croyons à l'évangile que Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Nous croyons à l'évangile dont Jésus-Christ est dont la révélation de Jésus-Christ est le centre. Et nous le reconnaissons comme notre salut et notre rédemption. Et que s'il peut se révéler à nous en tant que tel, alors vraiment nous verrons le salut de Dieu. Alors, de tout notre cœur, nous serons saisis si c'est à l'évangile dont il est le centre, lui, la révélation de Dieu en Christ, dans la chair. Et nous participerons ainsi à la nature divine. Beaucoup veulent participer à la nature divine et s'efforcent même à le faire, à le devenir. Ils donnent leur mieux. Ils donnent leur meilleur. Mais vous savez quel chemin les Écritures nous montrent pour cela? Je vais vous lire cela dans 2 Pierre, le premier chapitre, à partir du verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Voici le chemin que les Écritures nous montrent pour atteindre la nature divine. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Maintenant arrive. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses en allemand, nous donne par les plus grandes et de sa part les plus précieuses et les plus afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le pardon de nos fautes et de nos péchés, en fait, oui, toute l'œuvre de la rédemption a eu lieu en Christ, le Fils de Dieu, sur la croix à Golgotha. Mais il est nécessaire que nous ayons la semence incorruptible de la parole de Dieu et de l'action du Saint-Esprit pour que dans l'homme qui a accepté la réconciliation, l'expiation de ses péchés et la rédemption dans la foi, qu'une nouvelle vie survienne, une nouvelle nature survienne et que ainsi il puisse participer à la nature divine pour le faire devenir participant à la nature divine. Il faut que Christ, par la nouvelle naissance dans ton cœur, dans mon cœur, prenne forme. Ici, il nous est dit que il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous les avons reçues pour, n'est-ce pas, fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et participer à la nature divine. Voilà comment c'est écrit en allemand. Et nous avons aussi souvent eu à parler de cela. Les prophètes étaient des hommes comme toi et moi, comme nous. Mais malgré tout, notre Seigneur dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, que ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, la Bible dit qu'ils sont des fils, qu'ils ont été nommés des fils du Très-Haut. La parole de Dieu en tant que substance divine est venue, a été placée dans leur vie terrestre et leur âme fut par l'Esprit de Dieu visitée et par la vie de Dieu qui était dans la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu a pénétré leur âme et par cela ils ont été participants à la nature divine. Vous savez que notre Seigneur aussi concernant ces choses donne une information dans l'évangile de Jean et très rapidement et courtement pour dire, il est capable de dire des choses pour lesquelles, pour les dire, nous perdrions beaucoup d'heures à les exprimer. Et lui, en quelques mots, il exprime cela. Lisons cela dans Jean, le chapitre 6, au verset 60. Jean 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, Jean 6, verset 60, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Et maintenant arrive le verset 63. C'est l'Esprit qui crée la vie en allemand. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. La parole de notre Dieu est esprit et elle est vie. L'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, la vie éternelle. Et ça, l'ont reçu ceux en qui la parole du Seigneur a été adressée fraîchement. Du haut des cieux, oui, de la meilleure manière, ils l'expérimentent et ils peuvent le rendre comme témoignage. Et malgré tout, j'ose dire que en tant que croyant, nous devons venir dans les réunions, dans cet état-là, pour que la parole de Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit, puisse toucher notre cœur et que nous puissions ressentir comme ceux-là ont ressenti à qui la parole de Dieu autrefois a été adressée. Ceux-là qui ont été appelés des fils de Dieu. Et je vous dis qu'ils ne pourront pas être restés debout ou bien assis. La parole du Seigneur avait pas seulement une impression terrestre, mais une impression spirituelle. Et elle a produit aussi quelque chose, pas seulement une impression, mais elle a produit quelque chose en eux qui demeure pour toujours. Mais bien aimé, est-ce que, en fait, sous l'écoute de la parole de Dieu, nous nous attendons à ce que Dieu se révèle à nous, à chacun, individuellement, et se manifeste, et que nous fassions une expérience surnaturel avec lui? La plupart attendent la bénédiction après la réunion. Le meilleur, c'est le mieux, c'est que c'est d'entrer dans la réunion, dans la salle, et déjà dès le commencement, jusqu'à la fin de la réunion, nous laisser bénir dès le commencement déjà. La parole de Dieu produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Toujours aux prophètes qui, n'est-ce pas, ont prophétisé concernant la grâce et qui examinaient et sondaient quelle serait l'époque que l'Esprit de Christ attestait. Eux aussi, ils ont expérimenté la parole de Dieu. Ils ont expérimenté l'effet pour lequel la parole leur avait été adressée. À plus forte raison, maintenant, après Golgotha, après que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur, en tant que l'accomplissement de toutes les prophéties bibliques, maintenant qu'il nous a apporté le salut, qu'il a apparu et qui nous a apporté le salut, à plus forte raison maintenant, combien plus la parole de Dieu produira l'effet pour lequel elle a été envoyée dans la troupe des rachetés par le sang de l'agneau qui ont fait une alliance avec Dieu. Avec qui il a fait une alliance? Nous sommes l'église de l'alliance du Nouveau Testament de notre Dieu. Sa parole, sa vie, son esprit, tout en nous, par la grâce de Dieu, doit exister. Sa parole, son esprit, sa vie. Et ses disciples, et cela c'est triste, n'est-ce pas, ont murmuré sur ce qu'il disait. Au verset 41, il est écrit: les Juifs murmuraient à son sujet. Ça, nous pouvons encore le comprendre, que ce soit les Juifs. Mais ensuite, quand au verset 71, il est dit que ses disciples murmuraient à ce sujet, alors là, cela nous attriste beaucoup. Si les incroyants, les incrédules, ou bien les soi-disant chrétiens de nom, croyants de nom, murmurent sur ce que le Seigneur a dit et a révélé, s'ils ne sont pas d'accord et ils murmurent et ils disent que c'est dur, bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Alors le Seigneur ne leur a même pas parlé, en fait. C'est pas possible. Ça, nous pouvons le comprendre, qu'ils murmurent. Mais quand il est écrit que ses disciples murmuraient à ce sujet et disaient même que c'était dur et insupportable à écouter, que cela ait attristé profondément notre Seigneur. Et il a voulu rendre clair et a rendu aussi clair à ses disciples avec cette parole qu'il ne s'agit pas de la compréhension humaine dans le royaume de Dieu des choses qu'on écoute et que ses paroles ne sont pas à notre niveau, mais comme Paul l'a adressé aux Corinthiens, le contenu de la parole est spirituel et nous devons le juger de manière spirituelle. Et dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de choses terrestres, mais il s'agit justement du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'est pas constitué au manger et au boire, comme c'est écrit, mais dans la paix et dans la joie, dans le Saint-Esprit. Notre Seigneur donne à ses disciples la réponse. C'est l'Esprit qui crée la vie. Et la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai adressées sont esprit et elles sont vie. Maintenant arrive. Remarquez ce que le Seigneur maintenant dit dans la prochaine phrase ici. Exprime. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ici, cela nous frappe encore plus. À ses disciples, adressé à ses disciples, qu'il a appelé, qu'il a aimé, qui le suivait, il dit, mais, au verset 64, il est parmi vous, pas dehors, pas dans le monde, pas parmi les Juifs ou bien les nations, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Pas croient pas, mais croient point. Mais bien-aimés, nous arrivons dans les dernières heures de la fin des temps. Et il s'agit maintenant, pas seulement à 90% ou bien 90% de croire à 90% de la parole révélée. Maintenant, justement, dans ce temps, il s'agit maintenant du point que tu ne veux pas accepter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la pilule. Et c'est ça la médecine dont tu as justement besoin. C'est justement ça qui ne t'arrange pas et que tu ne veux pas accepter. Justement, c'est ça que tu dois accepter pour être en bonne santé. Je ne sais pas si nous comprenons tout cela en ce moment, mais l'Esprit de Dieu nous laisse aujourd'hui savoir que le Seigneur, déjà autrefois, a regardé ses disciples, les a discernés et il a dû constater, il a dû faire cette constatation triste. Il a dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Beaucoup d'années, ils étaient avec le Seigneur, mais ils n'ont jamais cru. Ils ont tout vu. Comment est-ce qu'il multipliait les pains? Comment est-ce qu'il a ouvert les yeux des aveugles et fait de grands signes et des prodiges? Et maintenant, il est arrivé à la profondeur de la parole. Maintenant, la révélation. Et ils se sont heurtés et n'ont pas cru. Le Seigneur était très attristé sur eux. Mais bien-aimés, que dans aucun de nous, dans personne, en aucun de nous, il y ait un cœur d'incrédulité, un mauvais cœur, comme c'est écrit dans Hébreux, le chapitre 3, verset 12. Mais que nous puissions tous croire, comme le dit les Écritures, pas comme toi et moi, nous le comprenons, ou bien nous l'avons compris, non. Mais comme les Écritures l'ont dit. Et Dieu, n'est-ce pas, a assez parlé, franchement, pour tous ceux qui sont prêts à se taire et à laisser parler Dieu et à accepter les choses telles qu'elles sont écrites. Car c'est ainsi que Dieu nous les adresse. Nous vivons dans les jours de la révélation de Dieu. Et il est écrit que dans les jours de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira tel que il l'avait révélé à ses serviteurs, les prophètes. Ce sont des jours dans lesquels le Fils de l'homme, de cette manière, s'est révélé d'une manière que il a, n'est-ce pas, révélé le mystère prophétique, oui, les prophéties bibliques pour ce temps. Il les a révélées, il les a placées sur le chandelier pour que le peuple de Dieu reçoive l'enseignement de Dieu. Et ça, c'est déjà écrit dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 28, la chose suivante est écrite. Ésaïe, chapitre 28, ici il est écrit, à partir du verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on interpréter les révélations en allemand? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car ces préceptes, ce précepte, précepte sur précepte. Fais ceci, fais cela. Règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Vous connaissez, pas seulement déjà depuis aujourd'hui, mais déjà depuis longtemps, vous connaissez cette parole. Dans les siècles passés, il a été dit aux hommes, règle sur règle, règle sur règle, précepte sur précepte. Fais ceci, fais cela. C'était toujours des règles, des préceptes, un peu ici, un peu là. Les gens les ont observés et tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, par la grâce de Dieu, ils ont été sauvés. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de ceci et de cela, règle sur règle, un peu ici, un peu là, précepte sur précepte, règle sur règle, ici et là, un peu. Mais aujourd'hui, il s'agit de la pleine révélation finale de Jésus-Christ et de la révélation de Dieu, de sa parole et de sa volonté dans son Église. Sans l'Église, Dieu ne peut pas achever ses intentions, ses desseins. Il a besoin de l'Église, de laquelle, n'est-ce pas, le fils mâle, la troupe des vainqueurs, doit naître, tel qu'autrefois, et il a eu besoin de Marie, pour que d'elle et par elle, le Fils de Dieu naisse dans ce monde, pour l'apporter dans ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé autrefois? Marie a reçu la promesse de l'époque dans laquelle elle vivait. Et le Saint-Esprit vint sur elle. Et c'est peut-être raison qu'il est écrit que ce qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Nous croyons les promesses de Dieu pour ce temps. Et le même Saint-Esprit vient sur nous et quelque chose de divin naît en nous et par nous. Pas par la chair et le sang, pas par nos propres efforts et notre propre volonté, mais par l'intervention de notre Dieu d'une manière surnaturelle. Et ensuite, dans le même chapitre d'Ésaïe 28, au verset 16, la dernière partie, il est écrit, Nous lisons le verset 16 entièrement. Éternel, ils t'ont cherché. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur à l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Ésaïe 28, 16. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ne sera pas, en allemand, celui qui croit en elle ne sera pas confus, n'aura point hâte de fuir. Jésus-Christ est la pierre solidement posée, éprouvée, une pierre angulaire de pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissent. Ils ne savaient pas où est sa place, où la poser. Mais dans les derniers jours, nous n'avons pas seulement à l'humanité présenté Jésus-Christ, mais nous l'avons reconnu dans sa divinité. Il était homme, il était Dieu manifesté en forme humaine, dans la chair. Il pouvait dire, celui qui me voit, voit le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et plusieurs se sont heurtés de nouveau à cette déclaration, mais ils avaient été déterminés à se heurter. Nous ne pouvons pas changer les choses. Notre Seigneur dit, heureux ceux qui ne se heurte pas à moi. Mais bien aimé, nous pourrions aujourd'hui lire tout un nombre d'écritures, mais nous n'avons pas le temps. Il y a un petit mariage qui est préparé, qui est prévu, et c'est peut-être raison que nous devons, avec cette partie, venir à la fin de cette. Mais résumons encore une fois ensemble. Dans les âges passés, il s'agissait de la connaissance de sujets bibliques. Les gens ont été conduits aussi de clarté en clarté, c'est vrai. Et les croyants, et il n'y a pas de doute à cela, c'est vrai. Mais nous vivons à la fin du temps de la grâce. Il ne s'agit pas ici de précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Mais il s'agit de la totale révélation de Dieu, la pleine révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et il s'agit de la pleine révélation de Jésus-Christ dans l'Église et par l'Église. Car c'est ainsi que Frère Branham le dit dans une écriture, dans un verset. La plénitude de Dieu s'est déversée en Christ. Et la plénitude de Christ s'est répandue par l'effusion du Saint-Esprit dans l'Église. Et je crois que tous, nous nous attachons à cette vérité-là que Dieu ne nous a pas seulement révélé sa parole, ne nous a pas seulement accordé sa parole révélée, mais qu'il est en train de répandre son esprit sur la parole que nous avons reçue et que la confirmation de sa parole soit une réalité et que cela se manifeste par l'Église, pas seulement par tes efforts ou bien mes efforts, mais en ce que nous puissions entièrement croire ses promesses et lui faire confiance et surtout nous tenir à sa disposition pour qu'il puisse se révéler lui-même, se manifester lui-même et que ce ne soit pas et cela ne concerne pas seulement certaines personnes, une seule personne, mais cela nous concerne tous. Et personne ne peut dire si quelqu'un veut faire quelque chose dans cette ville, qu'il puisse le faire par ce frère-là. Non, Nous sommes le corps du Seigneur, l'Église. Et si Dieu fait quelque chose, alors il veut le faire par les membres, par tous les membres de son corps. Et je pense que sous la prédication de la parole, nous avons assez compris cela. Que toute chose que le Seigneur a dit et a révélé de tout notre cœur, nous le croyons. Et que pas un seul est parmi nous qui pourrait être trouvé de qui on pourrait penser ou bien dire qu'il y en a parmi nous, parmi vous, qui ne croient point parmi ses disciples. Et c'était ses disciples. Et si pour finir et pour résumer, encore une fois, je me réfère au ministère béni de frère Branham, et que je peux vous rappeler cela encore pendant les jours de son ministère d'évangélisation. Il y avait des centaines de milliers qui se réunissaient, des foules nombreuses de tous les pays. Il y avait des masses, des foules qui venaient et qui étaient bénies, pour être guéries. Mais quand la deuxième phase de son ministère vint, avec l'enseignement de la parole de Dieu, alors que les vérités bibliques, la divinité, le baptême d'eau, la Sainte Cène, le repas du Seigneur et tout ce qui appartient à cela, la chute de l'homme jusqu'à même l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ et toutes ces choses, quand cela suivit, beaucoup l'ont quitté et ont arrêté de suivre le Seigneur. Alors, depuis l'ouverture des sept sceaux, en mars 1963, après que le Seigneur, dans cette nuée, le 28 février 62, était descendu et que la voix lui a dit « Retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les sceaux est arrivé. » Alors que le ministère de frère Branham avait reçu ce changement divin par les révélations prophétiques et les mystères profonds de la volonté et de la parole de Dieu, quand ils furent révélés et prêchés, encore plus l'ont quitté, encore plus. Et vous pouvez aller sur toute la terre, on écoute partout la même chose. De grands évangélistes populaires connus le propagent avec force et disent « Oui, frère Branham était le plus grand homme de Dieu depuis le jour de Jésus-Christ. Mais, et maintenant suis le « Amen ». Mais dans ces dernières années, il l'a dévié. Mais ça, c'est ainsi, n'est-ce pas? C'est comme ça que les grands évangélistes disent. Peut-être que il a dévié de la tendance générale que l'humanité voulait et a suivi. Mais c'était l'heure de Dieu qui était arrivé. Et nous sommes reconnaissants de ce que l'heure de Dieu avait frappé et a frappé. C'était un changement pour tout le peuple de Dieu. Et c'est en cela que les esprits se sont heurtés parce qu'ils n'étaient pas prêts à marcher dans la lumière de la parole révélée. Ils sont allés dans les ténèbres et ils se sont heurtés dans l'incrédulité à la parole et ils sont tombés et ils ont trébuché. Ce qui a servi à la chute de beaucoup, Pour plusieurs, ça a servi de leur relèvement. Ça peut être la même marche sur laquelle un aveugle trébuche et tombe, et quelqu'un qui voit l'utilise pour monter plus haut. Oh, place-moi sur un fondement élevé, comme le cantique le chante. Sur la plateforme de la révélation divine de Jésus-Christ. Et là, tous les trésors de la sagesse divine et de la connaissance et de l'intelligence sont cachés en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si pour ce ministère envoyé de Dieu, par Dieu, si vous étiez reconnaissant pour ce ministère, alors que cela le soit aujourd'hui, est-ce qu'on doit, ici de devant, après tant d'années, se tenir et encore obliger des hommes à être reconnaissants en face de Dieu, qui depuis des années a fait retentir la voix de sa parole et de son esprit? Des gens qui ont entendu durant ces années sa parole, est-ce qu'on doit les obliger à remercier Dieu? Ou bien en eux, ils ne devraient pas avoir une source qui jaillit et qui apporte au Dieu Tout-Puissant la reconnaissance que nous lui devons de la profondeur de notre âme? Mais bien aimé, Dieu a fait de grandes choses. Et cela, les choses pour lesquelles les choses trébuchent, et pour lesquels ils s'égarent et se retirent, et ceux qui ne peuvent pas croire. C'est par cela que nous nous relevons, que nous sommes relevés. C'est par cela même que nous sommes corrigés et édifiés sur ce fondement solide. Nous pouvons, dans le lieu très saint, entrer dans le lieu très saint, et l'arche de l'Alliance, nous la voyons ouverte, et la parole de notre Dieu nous est pour nous esprit et vie en tous ceux qui, pour ce temps, ont reçu le message divin. Loué et exalté soit le nom du Seigneur, notre Dieu, qui est élevé et en tant que nom qui est au-dessus de tout nom se tient maintenant et dans toute l'éternité. À notre Dieu soit la reconnaissance pour la révélation de sa parole et de son esprit et de sa volonté dans notre temps, de tout notre cœur, que nous puissions lui dire merci. Amen. Levons-nous pour le faire. Nous voulons tous ensemble dire Alléluia. Alléluia. Loué et remercié soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Remercié soit le Seigneur, l'Éternel, qui a parlé avec nous. Sa parole est esprit et vie. Nous te remercions, Seigneur fidèle, et nous te demandons que tu puisses veiller sur nous tous et sois avec nous. Que personne soit confus. Que nous puissions croire de tout notre cœur, sincèrement croire tout ce que tu as dit. Alors tu nous révéleras ces choses. Alléluia. Loué sois-tu. Tu nous as apporté par ta grâce accordé la révélation de Jésus-Christ. Et avec lui, avec cette révélation, toute la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Seigneur, dans cette heure, en ce jour, en cet endroit. Laisse luire, j'élève et je loue ton saint nom. Et je te remercie pour les milliers d'hommes que tu as sauvés, que tu as appelés à sortir et que tu as conduit dans la vérité. Seigneur, que ce ministère, maintenant, puisse recevoir le changement nécessaire et pour que, par ta grâce, tu fasses quelque chose de nouveau pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous avons reçu ta parole, que elle puisse devenir pour nous une réalité vivante, une réalité divine vivante dans nos cœurs, dans nos vies et dans l'Église. À toi, ô Dieu, nous te disons merci aujourd'hui, ensemble, de tout notre cœur, dans le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. 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 Béni sur toute la terre, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, et appelle les derniers à sortir. Je te remercie pour les portes ouvertes et pour les possibilités illimitées que tu nous as accordées dans ces jours. Je te remercie aussi pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs. Bénis-les. Reçois-les et sois avec chacun par ta grâce. Dans le saint nom de Jésus.
Amen.
Amen.
Alléluia.
Alléluia.
Oh, God.
Oh Dieu.
Glory, glory, hallelujah.
Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, alléluia.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Seine Wahrheit schreitet voran. Und noch einmal.
Et encore une fois, de tout notre cœur.
Glory, glory,
hallelujah.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Seine Wahrheit,
sa vérité,
schreitet voran.
Parcours tous les pays. Tu es digne. Tu es digne.
Du bist würdig. Hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Amen.
Amen.